Chapitre 3 Seraphita Seraphitus. Après une pause pendant laquelle le pasteur parut recueillir ses souvenirs, il reprit en ces termes. Emmanuel de Swedenborg est né à Uppsala, en Suède, dans le mois de janvier 1688, suivant quelques auteurs, en 1689, suivant son épitaphe. Son père était évêque de Skara. Swedenborg vécut 85 années, sa mort étant arrivée à Londres le 29 mars 1772. Je me sers de cette expression pour exprimer un simple changement d'état. Selon ses disciples, Swedenborg aurait été vu à Jarvis et à Paris postérieurement à cette date. Permettez, mon cher Wilfrid, dit M. Becker en faisant un geste pour prévenir toute interruption, je raconte des faits, sans les affirmer, sans les nier. Écoutez, et après, vous penserez de tout ceci ce que vous voudrez. Je vous préviendrai lorsque je jugerai, critiquerai, discuterai les doctrines, afin de constater ma neutralité intelligentielle entre la raison et lui. La vie d'Emmanuel Swedenborg fut scindée en deux parts, reprit le pasteur. De 1688 à 1745, le baron Emmanuel de Swedenborg apparut dans le monde comme un homme du plus vaste savoir, estimé, chéri pour ses vertus, toujours irréprochable, constamment utile. Tout en remplissant de hautes fonctions en Suède, il a publié de 1709 à 1740 sur la minéralogie, la physique, les mathématiques, et l'astronomie, des livres nombreux et solides qui ont éclairé le monde savant. Il a inventé la méthode de bâtir des bassins propres à recevoir les vaisseaux. Il a écrit sur les questions les plus importantes, depuis la hauteur des marées jusqu'à la position de la Terre. Il a trouvé tout à la fois les moyens de construire de meilleures écluses pour les canaux et des procédés plus simples pour l'extraction des métaux. Enfin, il ne s'est pas occupé d'une science sans lui faire faire un progrès. Il étudia pendant sa jeunesse les langues hébraïques, grecques, latines et les langues orientales, dont la connaissance lui devint si familière que plusieurs professeurs célèbres l'ont consulté souvent et qu'il put reconnaître dans la Tartarie les vestiges du plus ancien livre de la parole, nommé Les guerres de Jéhovah et les énoncés dont il est parlé par Moïse dans les Nombres 21, 14, 15, 27, 30, par Josué, par Jérémie et par Samuel. Les guerres de Jéhovah seraient la partie historique et les énoncés la partie prophétique de ce livre antérieur à la Genèse. Swedenborg a même affirmé que le Jaschar, ou le Livre du Juste, mentionné par Josué, existait dans la Tartarie orientale, avec le culte des correspondances. Un Français a, dit-on, récemment justifié les prévisions de Swedenborg, en annonçant avoir trouvé à Bagdad plusieurs parties de la Bible inconnues en Europe. Lors de la discussion presque européenne que souleva le magnétisme animal à Paris et à laquelle presque tous les savants prirent une part active en 1785, M. le marquis de Thomé vengea la mémoire de Swedenborg en relevant des assertions échappées au commissaire nommé par le roi de France pour examiner le magnétisme. Ces messieurs prétendaient qu'il n'existait aucune théorie de l'aimant, tandis que Swedenborg s'en était occupé dès l'an 1720. Monsieur de Thomé saisit cette occasion pour démontrer les causes de l'oubli dans lequel les hommes les plus célèbres laissaient le savant suédois afin de pouvoir fouiller ses trésors et s'en aider pour leurs travaux. « Quelques-uns des plus illustres, dit Monsieur de Thomé, en faisant allusion à la théorie de la terre par Buffon, ont la faiblesse de se parer des plumes du paon sans lui en faire hommage. Enfin, il prouva par des citations victorieuses, tirées des œuvres encyclopédiques de Swedenborg, que ce grand prophète avait devancé de plusieurs siècles la marche lente des sciences humaines. Il suffit en effet de lire ses œuvres philosophiques et minéralogiques pour en être convaincu. Dans tel passage, il se fait le précurseur de la chimie actuelle, en annonçant que les productions de la nature organisée sont toutes décomposables et aboutissent à deux principes purs, que l'eau, l'air, le feu ne sont pas des éléments. Dans tel autre, il va par quelques mots au fond des mystères magnétiques, il en ravit ainsi la première connaissance à Mesmer. Enfin, voici de lui, dit M. Becker en montrant une longue planche attachée entre le poêle et la croisée sur laquelle étaient des livres de toute grandeur, voici 17 ouvrages différents, dont un seul, ses œuvres philosophiques et minéralogiques, publiées en 1734, ont 3 volumes in folio. Ses productions, qui attestent les connaissances positives de Swedenborg, m'ont été données par M. Séraphitus, son cousin, père de Séraphita. En 1740, Swedenborg tomba dans un silence absolu, d'où il ne sortit que pour quitter ses occupations temporelles et penser exclusivement au monde spirituel. Il reçut les premiers ordres du ciel en 1745. Voici comment il a raconté sa vocation. Un soir, à Londres, après avoir dîné de grand appétit, un brouillard épais se répandit dans sa chambre. Quand les ténèbres se dissipèrent, une créature, qui avait pris la forme humaine, se leva du coin de sa chambre et lui dit d'une voix terrible « Ne mange pas tant !» Il fit une diète absolue. La nuit suivante, le même homme vint, rayonnant de lumière, et lui dit « Je suis envoyé par Dieu qui t'a choisi pour expliquer aux hommes le sens de sa parole et de ses créations. Je te dicterai ce que tu dois écrire. » La vision dura peu de moments. L'ange était, disait-il, vêtu de pourpre. Pendant cette nuit, les yeux de son homme intérieur furent ouverts et disposés pour voir dans le ciel, dans le monde des esprits et dans les enfers, 3 sphères différentes, où il rencontra des personnes de sa connaissance qui avaient péri dans leur forme humaine, les unes depuis longtemps, les autres depuis peu. Dès ce moment, Swedenborg a constamment vécu de la vie des esprits et resta dans ce monde comme envoyé de Dieu. Si sa mission lui fut contestée par les incrédules, sa conduite fut évidemment celle d'un être supérieur à l'humanité. D'abord, quoique borné par sa fortune au strict nécessaire, il a donné des sommes immenses et notoirement relevées dans plusieurs villes de commerce, de grandes maisons tombées ou qui allaient faillir. Aucun de ceux qui firent un appel à sa générosité ne s'en alla sans être aussitôt satisfait. Un Anglais incrédule s'est mis à sa poursuite, l'a rencontré dans Paris et a raconté que chez lui les portes restaient constamment ouvertes. Un jour, son domestique s'étant plaint de cette négligence qu'il exposait à être soupçonné des vols qui atteindraient l'argent de son maître, « Qu'il soit tranquille, » dit Swedenborg en souriant, « je lui pardonne sa défiance, il ne voit pas le gardien qui veille à ma porte. » En effet, en quelque pays qu'il habita, il ne ferma jamais ses portes et rien ne fut perdu chez lui. À Gothenburg, ville située à 60 miles de Stockholm, il annonça, 3 jours avant l'arrivée du courrier, l'heure précise de l'incendie qui ravageait Stockholm en faisant observer que sa maison n'était pas brûlée. Ce qui était vrai. La reine de Suède dit à Berlin, au roi son frère, qu'une de ses dames étant assignée pour payer une somme qu'elle savait avoir été rendue par son mari avant qu'il mourût, mais n'en trouvant pas la quittance, alla chez Swedenborg et le pria de demander à son mari où pouvait être la preuve du paiement. Le lendemain, Swedenborg lui indiqua l'endroit où était la quittance, mais comme, suivant le désir de cette dame, il avait prié le défunt d'apparaître à sa femme, celle-ci vit en songe son mari, vêtu de la robe de chambre qu'il portait avant de mourir, et lui montra la quittance dans l'endroit désigné par Swedenborg, et où elle était effectivement cachée. Un jour, en s'embarquant à Londres, dans le navire du capitaine Dixon, il entendit une dame qui demandait si l'on avait fait beaucoup de provisions. « Il n'en faut pas tant, » répondit-il. « Dans 8 jours, à 2 heures, nous serons dans le port de Stockholm. » Ce qui arriva. L'état de vision dans lequel Swedenborg se mettait à son gré, relativement aux choses de la terre, et qui étonna tous ceux qui l'approchèrent par des effets merveilleux, n'était qu'une faible application de sa faculté de voir les cieux. Parmi ses visions, celles où il raconte ses voyages dans les terres astrales ne sont pas les moins curieuses, et ses descriptions doivent nécessairement surprendre par la naïveté des détails. Un homme dont l'immense portée scientifique est incontestable, qui réunissait en lui la conception, la volonté, l'imagination, aurait certes inventé mieux, s'il eût inventé. La littérature fantastique des Orientaux n'offre d'ailleurs rien qui puisse donner une idée de cette œuvre étourdissante et pleine de poésie en germe, s'il est permis de comparer une œuvre de croyance aux œuvres de la fantaisie arabe. L'enlèvement de Swedenborg par l'ange, qui lui servit de guide dans son premier voyage, est d'une sublimité qui dépasse de toute la distance que Dieu a mise entre la terre et le soleil, celle des épopées de Klopstock, de Milton, du Tasse et de Dante. Cette partie, qui sert de début à son ouvrage sur les terres astrales, n'a jamais été publiée. Elle appartient aux traditions orales, laissées par Swedenborg aux 3 disciples qui étaient au plus près de son cœur. Monsieur Silverrich la possède écrite. Monsieur Séraphitus a voulu m'en parler quelquefois, mais le souvenir de la parole de son cousin était si brûlant qu'il s'arrêtait au premier mot et tombait dans une rêverie d'où rien ne le pouvait tirer. Le discours par lequel l'ange prouve à Swedenborg que ses corps ne sont pas faits pour être errants et déserts écrase, m'a dit le baron, toutes les sciences humaines, sous le grandiose d'une logique divine. Selon le prophète, les habitants de Jupiter ne cultivent point les sciences qu'ils nomment des ombres. Ceux de Mercure détestent l'expression des idées par la parole qui leur semble trop matérielle. Ils ont un langage oculaire. Ceux de Saturne sont continuellement tentés par de mauvais esprits. Ceux de la Lune sont petits comme des enfants de 6 ans. Leur voix part de l'abdomen et ils rampent. Ceux de Vénus sont d'une taille gigantesque, mais stupide, et vivent de brigandage. Néanmoins, une partie de cette planète a des habitants d'une grande douceur, qui vivent dans l'amour du bien. Enfin, il décrit les mœurs des peuples attachés à ces globes, et traduit le sens général de leur existence par rapport à l'univers, en des termes si précis. Il donne des explications qui concordent si bien aux effets de leur révolution apparente dans le système général du monde, que peut-être un jour les savants viendront-ils s'abreuver à ces sources lumineuses. « Voici, » dit M. Becker, après avoir pris un livre, en l'ouvrant à l'endroit marqué par le signet, « voici par quelle parole il a terminé cette œuvre. Si l'on doute que j'aie été transporté dans un grand nombre de terres astrales, qu'on se rappelle mes observations sur les distances dans l'autre vie. Elles n'existent que relativement à l'état externe de l'homme. Or, ayant été disposé intérieurement comme les esprits angéliques de ces terres, j'ai pu les connaître. Les circonstances auxquelles nous avons dû de posséder dans ce canton le baron Séraphitus, cousin bien-aimé de Swedenborg, ne m'ont laissé étranger à aucun événement de cette vie extraordinaire. Il fut accusé dernièrement d'imposture dans quelques papiers publics de l'Europe qui rapportèrent le fait suivant d'après une lettre du chevalier Baylon. Swedenborg, disait-on, instruit par des sénateurs de la correspondance secrète de la feu reine de Suède avec le prince de Prusse, son frère, en révéla les mystères à cette princesse et la laissa croire qu'il en avait été instruit par des moyens surnaturels. Un homme digne de foi, Monsieur Charles Léonard de Stahlhammer, capitaine dans la garde royale et chevalier de l'épée, a répondu par une lettre à cette calomnie. Le pasteur chercha dans le tiroir de sa table parmi quelques papiers. Il finit par y trouver une gazette. Il attendit à Wilfrid, qui lut à haute voix la lettre suivante. Stockholm, 13 mai 1788. J'ai lu avec étonnement la lettre qui rapporte l'entretien qu'a eu le fameux Swedenborg avec la reine Louise Ulrich. Les circonstances en sont tout à fait fausses, et j'espère que l'auteur me pardonnera si, par un récit fidèle qui peut être attesté par plusieurs personnes de distinction qui étaient présentes et qui sont encore en vie, je lui montre combien il s'est trompé. En 1758, peu de temps après la mort du prince de Prusse, Swedenborg vint à la cour. Il avait coutume de s'y trouver régulièrement. À peine eut-il été aperçu de la reine qu'elle lui dit « À propos, monsieur l'assesseur, avez-vous vu mon frère ?» Swedenborg répondit que non, et la reine lui répliqua « Si vous le rencontrez, saluez-le de ma part. » En disant cela, elle n'avait d'autre intention que de plaisanter, et ne pensait nullement à lui demander la moindre instruction touchant son frère. 8 jours après, et non pas 24 heures, 24 jours après, ni dans une audience particulière, Swedenborg vint de nouveau à la cour, mais de si bonne heure que la reine n'avait pas encore quitté son appartement, appelé la chambre blanche, où elle causait avec ses dames d'honneur et d'autres femmes de la cour. Swedenborg n'attend point que la reine sorte. Il entre directement dans son appartement et lui parle bas à l'oreille. La reine, frappée d'étonnement, se trouva mal et eut besoin de quelque temps pour se remettre. Revenue à elle-même, elle dit aux personnes qui l'entouraient « Il n'y a que Dieu et mon frère qui puissent savoir ce qu'il vient de me dire. » Elle avoua qu'il lui avait parlé de sa dernière correspondance avec ce prince, dont le sujet n'était connu que d'eux seuls. Je ne puis expliquer comment Swedenborg eut connaissance de ce secret, mais ce que je puis assurer sur mon honneur, c'est que ni le comte H, comme le dit l'auteur de la lettre, ni personne n'a intercepté ou lu les lettres de la reine. Le Sénat d'alors lui permettait d'écrire à son frère dans la plus grande sécurité et regardait cette correspondance comme très indifférente à l'État. Il est évident que l'auteur de la susdite lettre n'a pas du tout connu le caractère du comte H. Ce seigneur respectable, qui a rendu les services les plus importants à sa patrie, réunit au talent de l'esprit les qualités du cœur, et son âge avancé n'affaiblit point en lui ses dons précieux. Il joignit toujours pendant toute son administration la politique la plus éclairée à la plus scrupuleuse intégrité, et se déclara l'ennemi des intrigues secrètes et des menées sourdes, qu'il regardait comme des moyens indignes pour arriver à son but. L'auteur n'a pas mieux connu l'assesseur Swedenborg. La seule faiblesse de cet homme, vraiment honnête, était de croire aux apparitions des esprits. Mais je l'ai connu pendant très longtemps, et je puis assurer qu'il était aussi persuadé de parler et de converser avec des esprits que je le suis, moi, dans ce moment, d'écrire ceci. Comme citoyen et comme ami, c'était l'homme le plus intègre, ayant en horreur l'imposture, et menant une vie exemplaire. L'explication qu'a voulu donner de ce fait le chevalier Baylon est, par conséquent, destituée de fondement. Et la visite faite pendant la nuit à Swedenborg par les comtes H et T est entièrement controuvée. Au reste, l'auteur de la lettre peut être assuré que je ne suis rien moins que sectateur de Swedenborg. L'amour seul de la vérité m'a engagé à rendre avec fidélité un fait qu'on a si souvent rapporté avec des détails entièrement faux, et j'affirme ce que je viens d'écrire en apposant la signature de mon nom. Les témoignages que Swedenborg a donnés de sa mission aux familles de Suède et de Prusse ont sans doute fondé la croyance dans laquelle vivent plusieurs personnages de ces deux cours, reprit M. Baker, en remettant la gazette dans son tiroir. Néanmoins, dit-il en continuant, je ne vous dirai pas tous les faits de sa vie matérielle et visible. Ses mœurs s'opposaient à ce qu'ils fussent exactement connus. Il vivait caché, sans vouloir s'enrichir ou parvenir à la célébrité. Il se distinguait même par une sorte de répugnance à faire des prosélytes, s'ouvrait à peu de personnes, et ne communiquait ses dons extérieurs qu'à celles en qui éclataient la foi, la sagesse et l'amour. Il savait reconnaître par un seul regard l'état de l'âme de ceux qui l'approchaient, et changeait en voyant ce qu'il voulait toucher de sa parole intérieure. Ses disciples ne lui ont, depuis l'année 1745, jamais rien vu faire pour aucun motif humain. Une seule personne, un prêtre suédois, nommé Mathésius, l'accusa de folie. Par un hasard extraordinaire, ce Mathésius, ennemi de Swedenborg et de ses écrits, devint fou peu de temps après, et vivait encore il y a quelques années à Stockholm avec une pension accordée par le roi de Suède. L'éloge de Swedenborg a d'ailleurs été composé avec un soin minutieux quant aux événements de sa vie et prononcé dans la grande salle de l'Académie royale des sciences à Stockholm par M. de Sandel, conseiller au Collège des Mines en 1786. Enfin, une déclaration reçue par le Lord Mayor à Londres constate les moindres détails de la dernière maladie et de la mort de Swedenborg, qui fut alors assisté par M. Ferelius, ecclésiaste suédois de la plus haute distinction. Les personnes comparues attestent que, loin d'avoir démenti ses écrits, Swedenborg en a constamment attesté la vérité. « Dans 100 ans, dit-il à M. Ferelius, ma doctrine régira l'Église. » Il a prédit fort exactement le jour et l'heure de sa mort. Le jour même, le dimanche 29 mars 1772, il demanda l'heure. « 5 heures, lui répondit-on. « Voilà qui est fini, dit-il. Dieu vous bénisse. » Puis 10 minutes après, il expira de la manière la plus tranquille, en poussant un léger soupir. La simplicité, la médiocrité, la solitude furent donc les traits de sa vie. Quand il avait achevé l'un de ses traités, il s'embarquait pour aller l'imprimer à Londres ou en Hollande et n'en parlait jamais. Il publia successivement ainsi 27 traités différents, tous écrits, dit-il, sous la dictée des anges. Que ce soit ou non vrai, peu d'hommes sont assez forts pour en soutenir les flammes orales. Les voici tous, dit M. Baker, en montrant une seconde planche sur laquelle était une 60aine de volumes. Les 7 traités où l'Esprit de Dieu jette ses plus vives lueurs sont Les délices de l'amour conjugal, Le ciel et l'enfer, L'Apocalypse révélée, L'exposition du sens interne, L'amour divin, Le vrai christianisme, La sagesse angélique de l'omnipotence, omniscience, omniprésence de ceux qui partagent l'éternité, l'immensité de Dieu. Son explication de l'Apocalypse commence par ces paroles, dit M. Baker en prenant et ouvrant le premier volume qui se trouvait près de lui. Ici je n'ai rien mis du mien. J'ai parlé d'après le Seigneur qui avait dit par le même ange à Jean, tu ne scelleras pas les paroles de cette prophétie. Apocalypse 22:10. Mon cher monsieur, dit le douteur en regardant Wilfrid, j'ai souvent tremblé de tous mes membres pendant les nuits d'hiver en lisant les œuvres terribles où cet homme déclare avec une parfaite innocence les plus grandes merveilles. J'ai vu, dit-il, les cieux et les anges. L'homme spirituel voit l'homme spirituel beaucoup mieux que l'homme terrestre ne voit l'homme terrestre. En décrivant les merveilles des cieux et au-dessous des cieux, j'obéis à l'ordre que le Seigneur m'a donné de le faire. On est le maître de ne pas me croire. Je ne puis mettre les autres dans l'état où Dieu m'a mis. Il ne dépend pas de moi de les faire converser avec les anges, ni d'opérer le miracle de la disposition expresse de leur entendement. Ils sont eux-mêmes les seuls instruments de leur exaltation angélique. Voici 28 ans que je suis dans le monde spirituel avec les anges, et sur la terre avec les hommes. Car il a plu au Seigneur de m'ouvrir les yeux de l'esprit, comme il les ouvrit à Paul, à Daniel et à Élisée. Néanmoins, certaines personnes ont des visions du monde spirituel par le détachement complet que le somnambulisme opère entre leur forme extérieure et leur homme intérieur. Dans cet état, dit Swedenborg en son traité de la sagesse angélique, l'homme peut être élevé jusque dans la lumière céleste parce que les sens corporels étant abolis, l'influence du ciel agit sans obstacle sur l'homme intérieur. Beaucoup de gens qui ne doutent point que Swedenborg n'ait eu des révélations célestes pensent néanmoins que tous ses écrits ne sont pas également empreints de l'inspiration divine. D'autres exigent une adhésion absolue à Swedenborg, tout en admettant ses obscurités. Mais ils croient que l'imperfection du langage terrestre a empêché le prophète d'exprimer ses visions spirituelles dont les obscurités disparaissent aux yeux de ceux que la foi a régénérés. Car, suivant l'admirable expression de son plus grand disciple, la chair est une génération extérieure, pour les poètes et les écrivains, son merveilleux est immense. Pour les voyants, tout est d'une réalité pure. Ces descriptions ont été pour quelques chrétiens des sujets de scandale. Certains critiques ont ridiculisé la substance céleste de ces temples, ces palais d'or, de ces villas superbes où s'ébattent les anges. D'autres se sont moqués de ces bosquets d'arbres mystérieux, de ces jardins où les fleurs parlent, où l'air est blanc, où les pierreries mystiques, la sardoine, l'escarboucle, la chrysolite, la chrysoprase, la cyanée, la chalcédoine, le béryl, l'urim et le thumine sont doués de mouvements, expriment des vérités célestes et qu'on peut interroger, car elles répondent par des variations de lumière. Vraie religion. Beaucoup de bons esprits n'admettent pas ces mondes où les couleurs font entendre de délicieux concerts, où les paroles flamboient, où le verbe s'écrit en cornicule. Dans le nord même, quelques écrivains ont ri de ces portes de perles, de diamants qui tapissent et meublent les maisons de sa Jérusalem, où les moindres ustensiles sont faits des substances les plus rares du globe. Mais, disent ses disciples, parce que tous ces objets sont clairsemés dans ce monde, est-ce une raison pour qu'ils ne soient pas abondants en l'autre? Sur la terre, ils sont d'une substance terrestre, tandis que dans les cieux, ils sont sous les apparences célestes et relatives à l'état d'ange. Swedenborg a d'ailleurs répété à ce sujet ces grandes paroles de Jésus-Christ. « Je vous enseigne en me servant des paroles terrestres, et vous ne m'entendez pas. Si je parlais le langage du ciel, comment pourriez-vous me comprendre ?» Jean. « Monsieur, moi j'ai lu Swedenborg en entier, » reprit M. Baker en laissant échapper un geste emphatique. « Je le dis avec orgueil, puisque j'ai gardé ma raison. En le lisant, il faut ou perdre le sens, ou devenir un voyant. Quoique j'ai résisté à ces deux folies, j'ai souvent éprouvé des ravissements inconnus, des saisissements profonds, des joies intérieures que donne seule la plénitude de la vérité, l'évidence de la lumière céleste. Tout ici-bas semble petit, quand l'âme parcourt les pages dévorantes de ces traités. Il est impossible de ne pas être frappé d'étonnement en songeant que, dans l'espace de 30 ans, cet homme a publié, sur les vérités du monde spirituel, 25 volumes in quarto, écrits en latin, dont le moindre a 500 pages, et qui sont tous imprimés en petits caractères. Il en a laissé, dit-on, 20 autres à Londres, déposés à son neveu, Monsieur Silverichm, ancien aumônier du roi de Suède. Certes, l'homme qui, de 20 à 60 ans, s'était presque épuisé par la publication d'une sorte d'encyclopédie, a dû recevoir des secours surnaturels pour composer ces prodigieux traités, à l'âge où les forces de l'homme commencent à s'éteindre. Dans ses écrits, il se trouve des milliers de propositions numérotées, dont aucune ne se contredit. Partout, l'exactitude, la méthode, la présence d'esprit éclatent et découlent d'un même fait, l'existence des anges. Sa vraie religion, où se résume tout son dogme, œuvre vigoureuse de lumière, a été conçue, exécutée, à 83 ans. Enfin, son ubiquité, son omniscience n'est démentie par aucun de ses critiques, ni par ses ennemis. Néanmoins, quand je me suis abreuvé à ce torrent de lueur céleste, Dieu ne m'a pas ouvert les yeux intérieurs, et j'ai jugé ses écrits avec la raison d'un homme non régénéré. J'ai donc souvent trouvé que l'inspiré Swedenborg avait dû parfois mal entendre les anges. J'ai ri de plusieurs visions auxquelles j'aurais dû, suivant les voyants, croire avec admiration. Je n'ai conçu ni l'écriture corniculaire des anges, ni leur ceinture dont l'or est plus ou moins faible. Si, par exemple, cette phrase « Il est des anges solitaires » m'a singulièrement attendri d'abord, par réflexion, je n'ai pas accordé cette solitude avec leur mariage. Je n'ai pas compris pourquoi la Vierge Marie conserve, dans le ciel, les habillements de satin blanc. J'ai osé me demander pourquoi les gigantesques démons Enakim et Éphilim venaient toujours combattre les chérubins dans les chants apocalyptiques d'Armageddon. J'ignore comment les satans peuvent encore discuter avec les anges. Monsieur le baron Seraphitus m'objectait que ces détails concernaient les anges qui demeuraient sur la terre, sous forme humaine. Souvent les visions du prophète suédois sont barbouillées de figures grotesques. Un de ces « mémorables », nom qu'il leur a donné, commence par ces paroles. Je vis des esprits rassemblés. Ils avaient des chapeaux sur leur tête. Dans un autre mémorable, il reçut du ciel un petit papier sur lequel il vit, dit-il, les lettres dont se servaient les peuples primitifs, et qui étaient composées de lignes courbes avec de petits anneaux qui se portaient en haut. Pour mieux attester sa communication avec les cieux, j'aurais voulu qu'il déposât ce papier à l'Académie royale des sciences de Suède. Enfin, peut-être ai-je tort. Peut-être les absurdités matérielles semées dans ces ouvrages ont-elles des significations spirituelles. Autrement, comment admettre la croissante influence de sa religion? Son Église compte aujourd'hui plus de 700 000 fidèles. Tant aux États-Unis d'Amérique, où différentes sectes s'y agrègent en masse, qu'en Angleterre, où 7000 Swedenborgistes se trouvent dans la seule ville de Manchester. Des hommes, aussi distingués par leurs connaissances que par leur rang dans le monde, soit en Allemagne, soit en Prusse et dans le Nord, ont publiquement adopté les croyances de Swedenborg, plus consolantes d'ailleurs que ne le sont celles des autres communions chrétiennes. Maintenant, je voudrais bien pouvoir vous expliquer en quelques paroles succinctes les points capitaux de la doctrine que Swedenborg a établie pour son Église. Mais cet abrégé fait de mémoire serait nécessairement fautif. Je ne puis donc me permettre de vous parler que des arcanes, qui concernent la naissance de Seraphita. Ici, M. Becker fit une pause, pendant laquelle il parut se recueillir, pour rassembler ses idées, et reprit ainsi. Après avoir mathématiquement établi que l'homme vit éternellement en des sphères, soit inférieures, soit supérieures, Swedenborg appelle « esprits angéliques » les êtres qui, dans ce monde, sont préparés pour le ciel, où ils deviennent anges. Selon lui, Dieu n'a pas créé d'anges spécialement. Il n'en existe point qui n'ait été homme sur la terre. La terre est ainsi la pépinière du ciel. Les anges ne sont donc pas anges pour eux-mêmes. Ils se transforment par une conjonction intime avec Dieu, à laquelle Dieu ne se refuse jamais. L'essence de Dieu n'étant jamais négative, mais incessamment active. Les esprits angéliques passent par trois natures d'amour, car l'homme ne peut être régénéré que successivement. D'abord, l'amour de soi. La suprême expression de cet amour est le génie humain, dont les œuvres obtiennent un culte. Puis, l'amour du monde, qui produit les prophètes, les grands hommes que la terre prend pour guide et salue du nom de divin. Enfin, l'amour du ciel, qui fait les esprits angéliques. Ces esprits sont, pour ainsi dire, les fleurs de l'humanité, qui s'y résument et travaillent à s'y résumer. Ils doivent avoir ou l'amour du ciel ou la sagesse du ciel. Mais ils sont toujours dans l'amour avant d'être dans la sagesse. Ainsi, la première transformation de l'homme est l'amour. Pour arriver à ce premier degré, ces existés antérieurs ont dû passer par l'espérance et la charité qu'il engendre pour la foi et la prière. Les idées acquises par l'exercice de ces vertus se transmettent à chaque nouvelle enveloppe humaine sous laquelle se cachent les métamorphoses de l'être intérieur, car rien ne se sépare, tout est nécessaire. L'espérance ne va pas sans la charité, la foi ne va pas sans la prière. Les quatre faces de ce carré sont solidaires. Faute d'une vertu, dit-il, l'esprit angélique est comme une perle brisée. Chacun de ces existés est donc un cercle dans lequel s'enroulent les richesses célestes de l'état antérieur. La grande perfection des esprits angéliques vient de cette mystérieuse progression par laquelle rien ne se perd des qualités successivement acquises pour arriver à leur glorieuse incarnation. Car à chaque transformation, ils se dépouillent insensiblement de la chair et de ses erreurs. Quand il vit dans l'amour, l'homme a quitté toutes ses passions mauvaises. L'espérance, la charité, la foi, la prière ont, suivant le mot d'Isaïe, yanné son intérieur, qui ne doit plus être pollué par aucune des affections terrestres. De là cette grande parole de saint Luc, « Faites-vous un trésor qui ne périsse pas dans les cieux. » Et celle de Jésus-Christ, « Laissez ce monde aux hommes, il est à eux. Faites-vous pur et venez chez mon Père. » La seconde transformation est la sagesse. La sagesse est la compréhension des choses célestes auxquelles l'esprit arrive par l'amour. L'esprit d'amour a conquis la force, résultat de toutes les passions terrestres vaincues. Il aime aveuglément Dieu, mais l'esprit de sagesse a l'intelligence et sait pourquoi il aime. Les ailes de l'un sont déployées et l'emportent vers Dieu, les ailes de l'autre sont repliées par la terreur que lui donne la science. Il connaît Dieu. L'un désire incessamment voir Dieu et s'élance vers lui. L'autre y touche et tremble. L'union qui se fait d'un esprit d'amour et d'un esprit de sagesse met la créature à l'état divin, pendant lequel son âme est femme et son corps est homme. Dernière expression humaine, où l'esprit l'emporte sur la forme, où la forme se débat encore contre l'esprit divin, car la forme, la chair, ignore, se révolte et veut rester grossière. Cette épreuve suprême engendre des souffrances inouïes que les cieux voient seuls et que le Christ a connues dans le jardin des oliviers. Après la mort, le premier ciel s'ouvre à cette double nature humaine purifiée. Aussi les hommes meurent-ils dans le désespoir, tandis que l'esprit meurt dans le ravissement. Ainsi le naturel, état dans lequel sont les êtres non régénérés, le spirituel, état dans lequel sont les esprits angéliques, et le divin, état dans lequel demeure l'ange, avant de briser son enveloppe, sont les trois degrés de l'existé, par lesquels l'homme parvient au ciel. Une pensée de Swedenborg vous expliquera merveilleusement la différence qui existe entre le naturel et le spirituel. Pour les hommes, dit-il, le naturel passe dans le spirituel. Ils considèrent le monde sous ses formes visibles et le perçoivent dans une réalité propre à leur sens. Mais pour l'esprit angélique, le spirituel passe dans le naturel. Il considère le monde dans son esprit intime et non dans sa forme. Ainsi, nos sciences humaines ne sont que l'analyse des formes. Le savant, selon le monde, est purement extérieur comme son savoir. Son intérieur ne lui sert qu'à conserver son aptitude à l'intelligence de la vérité. L'esprit angélique va bien au-delà. Son savoir est la pensée dont la science humaine n'est que la parole. Il puise la connaissance des choses dans le verbe, en apprenant les correspondances par lesquelles les mondes concordent avec les cieux. La parole de Dieu fut entièrement écrite par pure correspondance. Elle couvre un sens interne ou spirituel qui, sans la science des correspondances, ne peut être compris. Il existe, dit Swedenborg, dans la doctrine céleste, des arcanes innombrables dans le sens interne des correspondances. Aussi les hommes qui se sont moqués des livres où les prophètes ont recueilli la parole Était-il dans l'état d'ignorance où sont ici-bas les hommes qui ne savent rien d'une science et se moquent des vérités de cette science? Savoir les correspondances de la parole avec les cieux, savoir les correspondances qui existent entre les choses visibles et pondérables du monde terrestre et les choses invisibles et impondérables du monde spirituel, c'est avoir les cieux dans son entendement. Tous les objets des diverses créations étant émanés de Dieu, comportent nécessairement un sens caché, comme le disent ces grandes paroles d'Isaïe. La terre est un vêtement. Ce lien mystérieux entre les moindres parcelles de la matière et les cieux constitue ce que Swedenborg appelle un arcane céleste. Aussi sont traités des arcanes célestes, où sont expliquées les correspondances ou signifiances du naturel au spirituel devant donner, suivant l'expression de Jacob Boehm, la signature de toute chose. N'a-t-il pas moins de 16 volumes et de 13 000 propositions? Cette connaissance merveilleuse des correspondances que la bonté de Dieu permit à Swedenborg d'avoir, dit un de ses disciples, est le secret de l'intérêt qu'inspirent ses ouvrages. Selon ce commentateur, là tout dérive du ciel, tout rappelle au ciel. Les écrits du prophète sont sublimes et clairs. Il parle dans les cieux et se fait entendre sur la terre. Sur une de ces phrases, on ferait un volume. Et le disciple cite celle-ci entre 1000 autres. Dans le royaume, dans les arcanes célestes. Le royaume du ciel est le royaume des motifs. L'action se produit dans le ciel, de là dans le monde, et par degrés, dans les infiniment petits de la terre, les effets terrestres étant liés à leur cause céleste, font que tout y est correspondant et signifiant. L'homme est le moyen d'union entre le naturel et le spirituel. Les esprits angéliques connaissent donc essentiellement les correspondances qui relient au ciel chaque chose de la terre et savent le sens intime des paroles prophétiques qui en dénoncent les révolutions. Ainsi, pour ces esprits, tout ici-bas porte sa signifiance. La moindre fleur est une pensée, une vie qui correspond à quelque linéament du grand tout, duquel ils ont une constante intuition. Pour eux, l'adultère et les débauches dont parlent les Écritures et les prophètes, souvent estropiés par de soi-disant écrivains, signifient l'état des âmes qui dans ce monde persistent à s'infecter d'affections terrestres et continuent ainsi leur divorce avec le ciel. Les nuées signifient les voiles dont s'enveloppe Dieu, les flambeaux, les pains de proposition, les chevaux et les cavaliers, les prostituées, les pierreries, tout, dans l'écriture, a pour eux un sens exquis et révèle l'avenir des faits terrestres dans leur rapport avec le ciel. Tous peuvent pénétrer la vérité des énoncés de Saint Jean, que la science humaine démontre et prouve matériellement plus tard, tel que celui-ci. Gros, dit Swedenborg, de plusieurs sciences humaines, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre étaient passés. Ils connaissent les festins où l'on mange la chair des rois, des hommes libres et des esclaves, et auxquels convient un ange debout dans le soleil. Ils voient la femme ailée, revêtue du soleil, et l'homme toujours armé. Le cheval de l'Apocalypse est, dit Swedenborg, l'image visible de l'intelligence humaine montée par la mort, car elle porte en elle son principe de destruction. Enfin, ils reconnaissent les peuples cachés sous des formes qui semblent fantastiques aux ignorants. Quand un homme est disposé à recevoir l'insufflation prophétique des correspondances, elle réveille en lui l'esprit de la parole. Il comprend alors que les créations ne sont que des transformations, elle vivifie son intelligence et lui donne pour les vérités une soif ardente qui ne peut s'étancher que dans le ciel. Il conçoit, suivant le plus ou le moins de perfection de son intérieur, la puissance des esprits angéliques et marche, conduit par le désir, l'état le moins imparfait de l'homme non régénéré, vers l'espérance qui lui ouvre le monde des esprits, puis il arrive à la prière qui lui donne la clé des cieux. Quelle créature ne désirerait se rendre digne d'entrer dans la sphère des intelligences qui vivent secrètement par l'amour ou par la sagesse? Ici-bas, pendant leur vie, ces esprits restent purs. Ils ne voient, ne pensent et ne parlent point comme les autres hommes. Il existe deux perceptions, l'une interne, l'autre externe. L'homme est tout externe. L'esprit angélique est tout interne. L'esprit va au fond des nombres. Il en possède la totalité, connaît leur signifiance. Il dispose du mouvement et s'associe à tout par l'ubiquité. Un ange, selon le prophète suédois, est présent à un autre quand il le désire. Car il a le don de se séparer de son corps et voit les cieux comme les prophètes les ont vus et comme Swedenborg les voyait lui-même. Dans cet état, dit-il, l'esprit de l'homme est transporté d'un lieu à un autre, le corps restant où il est, état dans lequel j'ai demeuré pendant 26 années. Nous devons entendre ainsi toutes les paroles bibliques où il est dit « L'esprit m'emporta ». La sagesse angélique est à la sagesse humaine ce que les innombrables forces de la nature sont à son action, qui est une. Tout revit, se meut, existe en l'esprit, car il est en Dieu, ce qu'expriment ces paroles de saint Paul. Nous vivons, nous agissons, nous sommes en Dieu. La terre ne lui offre aucun obstacle, comme la parole ne lui offre aucune obscurité. Sa divinité prochaine lui permet de voir la pensée de Dieu voilée par le Verbe, de même que vivant par son intérieur. L'esprit communique avec le sens intime, caché sous toutes les choses de ce monde. La science est le langage du monde temporel. L'amour est celui du monde spirituel. Aussi l'homme décrit-il plus qu'il n'explique, tandis que l'esprit angélique voit et comprend. La science attriste l'homme, l'amour exalte l'ange. La science cherche encore, l'amour a trouvé. L'innocence des cieux, dit Swedenborg, fait une telle impression sur l'âme que ceux qu'elle affecte en gardent un ravissement qui dure toute leur vie, comme je l'ai moi-même éprouvé. Il suffit peut-être, dit-il encore, d'en avoir une minime perception pour être à jamais changé, pour vouloir aller aux cieux et entrer ainsi dans la sphère de l'espérance. Sa doctrine sur les mariages peut se réduire à ce peu de mots. Le Seigneur a pris la beauté, l'élégance de la vie de l'homme et l'a transportée dans la femme. Quand l'homme n'est pas réuni à cette beauté, à cette élégance de sa vie, il est sévère, triste et farouche. Quand il y est réuni, il est joyeux, il est complet. Les anges sont toujours dans le point le plus parfait de la beauté. Leurs mariages sont célébrés par des cérémonies merveilleuses. Dans cette union, qui ne produit point d'enfants, l'homme a donné l'entendement, la femme a donné la volonté. Ils deviennent un seul être, une seule chair ici-bas. Puis ils vont aux cieux après avoir revêtu la forme céleste. Ici-bas, dans l'état naturel, le penchant mutuel des deux sexes vers les voluptés est un effet qui entraîne et fatigue et dégoût. Mais sous sa forme céleste, le couple devenu le même esprit trouve en lui-même une cause incessante de volupté. Swedenborg a vu ce mariage des esprits, qui selon saint Luc n'a point de noces et qui n'inspire que des plaisirs spirituels. Un ange s'offrit à le rendre témoin d'un mariage et l'entraîna sur ses ailes. Les ailes sont un symbole et non une réalité terrestre. Il le revêtit de sa robe de fête et quand Swedenborg se vit habillé de lumière, il demanda pourquoi. Dans cette circonstance, répondit l'ange, nos robes s'allument et se font nuptiales. Il aperçut alors deux anges qui vinrent, l'un du midi, l'autre de l'Orient. L'ange du midi était dans un char, attelé de deux chevaux blancs, dont les rênes avaient la couleur et l'éclat de l'aurore. mais quand ils furent près de lui, dans le ciel, il ne vit plus ni les chars ni les chevaux. L'ange de l'Orient, vêtu de pourpre, et l'ange du Midi, vêtu d'hyacinthe, accoururent comme deux souffles, et se confondirent. L'un était un ange d'amour, l'autre était un ange de sagesse. Le guide de Swedenborg lui dit que ces deux anges avaient été liés sur la terre d'une amitié intérieure et toujours unis, quoique séparés par les espaces. Le consentement qui est l'essence des bons mariages sur la terre est l'état habituel des anges dans le ciel. L'amour est la lumière de leur monde. Le ravissement éternel des anges vient de la faculté que Dieu leur communique de lui rendre à lui-même la joie qu'ils en éprouvent. Cette réciprocité d'infini fait leur vie. Dans le ciel, ils deviennent infinis en participant de l'essence de Dieu qui s'engendre par lui-même. L'immensité des cieux, où vivent les anges, est telle que si l'homme était doué d'une vue aussi continuellement rapide que l'est la lumière en venant du soleil sur la terre et qu'il regarda pendant l'éternité, ses yeux ne trouveraient pas un horizon où se reposer. La lumière explique seule les félicités du ciel. C'est, dit-il, une vapeur de la vertu de Dieu, une émanation pure de sa clarté, auprès de laquelle notre jour le plus éclatant est l'obscurité. Elle peut tout, renouvelle tout, et ne s'absorbe pas. Elle environne l'ange, et lui fait toucher Dieu par des jouissances infinies, que l'on sent se multiplier infiniment par elle-même. Cette lumière tue tout homme qui n'est pas préparé à la recevoir. Nul ici-bas, ni même dans le ciel, ne peut voir Dieu et vivre. Voilà pourquoi il est dit, la montagne où Moïse parlait au Seigneur était gardée de peur que quelqu'un ne venant à y toucher ne mourût. Puis encore, quand Moïse apporta les secondes tables, sa face brillait tellement qu'il fut obligé de la voiler pour ne faire mourir personne en parlant au peuple. La transfiguration de Jésus-Christ accuse également la lumière que jette un messager du ciel et les ineffables jouissances que trouvent les anges à en être continuellement imbus. Saint Matthieu dit, sa face resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent comme la lumière, et un nuage couvrit ses disciples. Enfin, quand un astre n'enferme plus que des êtres qui se refusent au Seigneur, que sa parole est méconnue, que les esprits angéliques ont été assemblés des quatre vents, Dieu envoie un ange exterminateur pour changer la masse du monde réfractaire, qui dans l'immensité de l'univers est pour lui ce qu'est dans la nature un germe infécond. En approchant du globe, l'ange exterminateur porté sur une comète le fait tourner sur son axe. Les continents deviennent alors le fond des mers, les plus hautes montagnes deviennent des îles, et les pays jadis couverts des eaux marines renaissent parés de leur fraîcheur en obéissant aux lois de la Genèse. La parole de Dieu reprend alors sa force sur une nouvelle terre qui garde en tout lieu les effets de l'eau terrestre et du feu céleste. La lumière que l'ange apporte d'en haut fait alors pâlir le soleil. Alors, comme dit Isaïe, les hommes entreront dans des fentes de rochers, se blottiront dans la poussière, ils crieront, aux montagnes, tombez sur nous, à la mer, prends-nous, aux airs, cachez-nous de la fureur de l'agneau. L'agneau est la grande figure des anges méconnus et persécutés ici-bas. Aussi Christ a-t-il dit, heureux ceux qui souffrent, heureux les simples, heureux ceux qui aiment. Tout Swedenborg est là, souffrir, croire, aimer. Pour bien aimer, ne faut-il pas avoir souffert, et ne faut-il pas croire? L'amour engendre la force, et la force donne la sagesse. De là l'intelligence, car la force et la sagesse comportent la volonté. Être intelligent, n'est-ce pas savoir, vouloir et pouvoir, les trois attributs de l'esprit angélique? Si l'univers a un sens, voilà le plus digne de Dieu. Me disait Monsieur Saint-Martin que je vis pendant le voyage qu'il fit en Suède. Mais monsieur, reprit Monsieur Becker après une pause, que signifient ces lambeaux pris dans l'étendue d'une œuvre de laquelle on ne peut donner une idée qu'en la comparant à un fleuve de lumière, à des ondées de flammes? Quand un homme s'y plonge, il est emporté par un courant terrible. Le poème de Dante Alighieri fait à peine l'effet d'un point, à qui veut se plonger dans les innombrables versets à l'aide desquels Swedenborg a rendu palpables les mondes célestes. Le baron fut le plus ardent disciple du prophète suédois, qui avait ouvert en lui les yeux de l'homme intérieur, et l'avait disposé pour une vie conforme aux ordres d'en haut. Il chercha parmi les femmes un esprit angélique. Swedenborg le lui trouva dans une vision. Sa fiancée fut la fille d'un cordonnier de Londres, en qui, disait Swedenborg, éclatait la vie du ciel, et dont les épreuves antérieures avaient été accomplies. Après la transformation du prophète, le baron vint à Jarvis pour faire ses noces célestes dans les pratiques de la prière. Quant à moi, monsieur, qui ne suis point un voyant, je ne me suis aperçu que des œuvres terrestres de ce couple. Sa vie a bien été celle des saints et des saintes, dont les vertus sont la gloire de l'Église romaine. Tous deux, ils ont adouci la misère des habitants, et leur ont donné à tous une fortune qui ne va point sans un peu de travail, mais qui suffit à leurs besoins. Les gens qui vécurent près d'eux ne les ont jamais surpris dans un mouvement de colère ou d'impatience. Ils ont été constamment bienfaisants et doux, pleins d'aménité, de grâce et de vraie bonté. Leur mariage a été l'harmonie de deux âmes incessamment unies. Deux Heiders volant du même vol, le son dans l'écho, la pensée dans la parole, sont peut-être des images imparfaites de cette union. Ici, chacun les aimait d'une affection qui ne pourrait s'exprimer qu'en la comparant à l'amour de la plante pour le soleil. La femme était simple dans ses manières, belle de forme, belle de visage, et d'une noblesse semblable à celle des personnes les plus augustes. En 1783, dans la 26e année de son âge, cette femme conçut un enfant. Sa gestation fut une joie grave. Les deux époux faisaient ainsi leurs adieux au monde, car ils me dirent qu'ils seraient sans doute transformés quand leur enfant aurait quitté la robe de chair qui avait besoin de leurs soins jusqu'au moment où la force d'être par elle-même lui serait communiquée. L'enfant naquit et fut cette Séraphita qui nous occupe en ce moment. Dès qu'elle fut conçue, son père et sa mère vécurent encore plus solitairement que par le passé, s'exaltant vers le ciel par la prière. Leur espérance était de voir Swedenborg, et la foi réalisa leur espérance. Le jour de la naissance de Séraphita, Swedenborg se manifesta dans Jarvis, et remplit de lumière la chambre où naissait l'enfant. Ses paroles furent, dit-on, « L'œuvre est accomplie, les cieux se réjouissent ». Les gens de la maison entendirent les sons étranges d'une mélodie qui, disait-il, semblait être apportée des quatre points cardinaux par le souffle des vents. L'esprit de Swedenborg emmena le père hors de la maison et le conduisit sur le fjord, où il le quitta. Quelques hommes de Jarvis s'étant alors approchés de M. Séraphitus, l'entendirent prononçant ces suaves paroles de l'Écriture. « Combien sont beaux sur les montagnes les pieds de l'ange que nous envoie le Seigneur !» Je sortais du presbytère pour aller au château, y baptiser l'enfant, le nommer, et accomplir les devoirs que m'imposent les lois lorsque je rencontrai le baron. « Votre ministère est superflu, me dit-il. Notre enfant doit être sans nom sur cette terre. Vous ne baptiserez pas avec l'eau de l'Église terrestre celui qui vient d'être ondoyé dans le feu du ciel. Cet enfant restera fleur. Vous ne le verrez pas vieillir. Vous le verrez passer. Vous avez l'existé. Il a la vie. Vous avez des sens extérieurs, il n'en a pas. Il est tout intérieur. » Ces paroles furent prononcées d'une voix surnaturelle par laquelle je fus affecté plus vivement encore que par l'éclat empreint sur son visage qui suait la lumière. Son aspect réalisait les fantastiques images que nous concevons des inspirés en lisant les prophéties de la Bible. Mais de tels effets ne sont pas rares au milieu de nos montagnes, où le nitre des neiges subsistante produit dans notre organisation d'étonnants phénomènes. Je lui demandai la cause de son émotion. Swedenborg est venu, je le quitte, j'ai respiré l'air du ciel, me dit-il. Sous quelle forme vous est-il apparu? Repris-je. Sous son apparence mortelle, vêtu comme il l'était la dernière fois que je le vis à Londres, chez Richard Schismith, dans le quartier de Cold Bath Field, en juillet 1771. Il portait son habit de ratine à reflets changeants, à boutons d'acier, son gilet fermé, sa cravate blanche et la même perruque magistrale, à rouleaux poudrés sur les côtés, et dont les cheveux relevés par devant lui découvraient ce front vaste et lumineux en harmonie avec sa grande figure carrée, où tout est puissance et calme. J'ai reconnu ce nez à larges narines pleines de feu, j'ai revu cette bouche, qui a toujours souri, bouche angélique d'où sont sortis ces mots pleins de mon bonheur. À bientôt. Et j'ai senti les resplendissements de l'amour céleste. La conviction qui brillait dans le visage du baron m'interdisait toute discussion. Je l'écoutais en silence. Sa voix avait une chaleur contagieuse qui m'échauffait les entrailles. Son fanatisme agitait mon cœur, comme la colère d'autrui nous fait vibrer les nerfs. Je le suivis en silence, et vins dans sa maison, où j'aperçus l'enfant sans nom, couché sur sa mère, qui l'enveloppait mystérieusement. Séraphita m'entendit venir et leva la tête vers moi. Ses yeux n'étaient pas ceux d'un enfant ordinaire. Pour exprimer l'impression que j'en reçus, il faudrait dire qu'il voyait et pensait déjà. L'enfance de cette créature prédestinée fut accompagnée de circonstances extraordinaires dans notre climat. Pendant 9 années, nos hivers ont été plus doux et nos étés plus longs que de coutume. Ce phénomène causa plusieurs discussions entre les savants, mais si leurs explications parurent suffisantes aux académiciens, elles firent sourire le baron quand je les lui communiquai. Jamais Séraphita n'a été vue dans sa nudité, comme le sont quelquefois les enfants. Jamais elle n'était touchée ni par un homme ni par une femme. Elle a vécu vierge sur le sein de sa mère et n'a jamais crié. Le vieux David vous confirmera ces faits, si vous le questionnez sur sa maîtresse, pour laquelle il a d'ailleurs une adoration semblable à celle qu'avait pour l'arche sainte le roi dont il porte le nom. Dès l'âge de 9 ans, l'enfant a commencé à se mettre en état de prière. La prière est sa vie. Vous l'avez vue dans notre temple, à Noël, seul jour où elle y vienne. Elle y est séparée des autres chrétiens par un espace considérable. Si cet espace n'existe pas entre elle et les hommes, elle souffre. Aussi reste-t-elle la plupart du temps au château. Les événements de sa vie sont d'ailleurs inconnus, elle ne se montre pas. Ses facultés, ses sensations, tout est intérieur. Elle demeure la plus grande partie du temps dans l'état de contemplation mystique, habituelle, disent les écrivains papistes, aux premiers chrétiens solitaires en qui demeurait la tradition de la parole de Christ. Son entendement, son âme, son corps, tout en elle est vierge, comme la neige de nos montagnes. À 10 ans, elle était telle que vous la voyez maintenant. Quand elle eut 9 ans, son père et sa mère expirèrent ensemble, sans douleur, sans maladie visible, après avoir dit l'heure à laquelle ils cesseraient d'être. Debout, à leurs pieds, elle les regardait d'un œil calme, sans témoigner ni tristesse, ni douleur, ni joie, ni curiosité. Son père et sa mère lui souriaient. Quand nous vîmes prendre les deux corps, elle dit « Emportez !»« Séraphita, lui dis-je, car nous l'avons appelée ainsi. N'êtes-vous donc pas affecté de la mort de votre père et de votre mère? Ils vous aimaient tant. Mort ? » dit-elle. « Non, ils sont en moi pour toujours. Ceci n'est rien, » ajouta-t-elle, en montrant sans aucune émotion les corps que l'on enlevait. Je la voyais pour la 3e fois depuis sa naissance. Au temple, il est difficile de l'apercevoir. Elle est debout près de la colonne à laquelle tient la chair dans une obscurité qui ne permet pas de saisir ses traits. Des serviteurs de cette maison, il ne restait, lors de cet événement, que le vieux David, qui, malgré ses 82 ans, suffit à servir sa maîtresse. Quelques gens de Jarvis ont raconté des choses merveilleuses sur cette fille, leur conte ayant pris une certaine consistance dans un pays essentiellement ami des mystères. Je me suis mis à étudier le traité des incantations de Jean Vire et les ouvrages relatifs à la démonologie, où sont consignés les effets prétendus surnaturels en l'homme, afin d'y chercher des faits analogues à ceux qui lui sont attribués. Vous ne croyez donc pas en elle ? Dit Wilfrid. Si fait, dit avec bonhomie le pasteur, je vois en elle une fille extrêmement capricieuse, gâtée par ses parents, qui lui ont tourné la tête avec les idées religieuses que je viens de vous formuler. Mina laissa échapper un signe de tête qui exprima doucement une négation. Pauvre fille, dit le docteur en continuant. Ses parents lui ont légué l'exaltation funeste qui égare les mystiques. Elle y rend plus ou moins fou. Elle se soumet à des diètes qui désolent le pauvre David. Ce bon vieillard ressemble à une plante chétive qui s'agite au moindre vent, qui s'épanouit au moindre rayon de soleil. Sa maîtresse, dont le langage incompréhensible est devenu le sien, est son vent et son soleil. Elle a pour lui des pieds de diamant et le front parsemé d'étoiles. Elle marche environnée d'une lumineuse et blanche atmosphère. Sa voix est accompagnée de musique. Elle a le don de se rendre invisible. Demandez à la voir. Il vous répondra qu'elle voyage dans les terres astrales. Il est difficile de croire à de telles fables. Vous le savez. Tout miracle ressemble plus ou moins à l'histoire de la dent d'or. Nous avons une dent d'or à Jarvis, voilà tout. Ainsi, Dunker, le pêcheur, affirme l'avoir vue, tantôt se plongeant dans le fjord d'où elle ressort sous la forme d'un aider, tantôt marchant sur les flots pendant la tempête. Fergus, qui mène les troupeaux dans le cellar, dit avoir vu, dans les temps pluvieux, le ciel toujours clair au-dessus du château suédois et toujours bleu au-dessus de la tête de Seraphita quand elle sort. Plusieurs femmes entendent les sons d'un orgue immense quand Seraphita vient dans le temple, et demandent sérieusement à leurs voisines si elles ne les entendent pas aussi. Mais ma fille, que depuis 2 ans, Seraphita prend en affection, n'a point entendu de musique, et n'a point senti les parfums du ciel qui, dit-on, embaument les airs quand elle se promène. Mina est souvent rentrée en m'exprimant une naïve admiration de jeune fille pour les beautés de notre printemps. Elle revenait enivrée des odeurs que jettent les premières pousses des mélèzes, des pins ou des fleurs qu'elle était allée respirer avec elle. Mais après un si long hiver, rien n'est plus naturel que cet excessif plaisir. La compagnie de ce démon n'a rien de bien extraordinaire. Dis, mon enfant. Ses secrets ne sont pas les miens, répondit Mina. Près de lui, je sais tout. Loin de lui, je ne sais plus rien. Près de lui, je ne suis plus moi. Loin de lui, j'ai tout oublié de cette vie délicieuse. Le voir est un rêve dont la souvenance ne me reste que suivant sa volonté. J'ai pu entendre près de lui, sans m'en souvenir loin de lui, les musiques dont parle la femme de Banker et celle d'Erickson. J'ai pu, près de lui, sentir des parfums célestes, contempler des merveilles, et ne plus en avoir idée ici. Ce qui m'a surpris le plus depuis que je la connais, ce fut de la voir vous souffrir près d'elle, reprit le pasteur en s'adressant à Wilfrid. Près d'elle, dit l'étranger, elle ne m'a jamais laissé ni lui baiser, ni même lui toucher la main. Quand elle me vit pour la première fois, son regard m'intimida. Elle me dit, « Soyez le bienvenu ici, car vous deviez venir. » Il me sembla qu'elle me connaissait. J'ai tremblé. La terreur me fait croire en elle. Et moi l'amour, dit Mina sans rougir. Ne vous moquez-vous pas de moi, dit Monsieur Baker en riant avec bonhomie. Toi, ma fille, en te disant un esprit d'amour, et vous, monsieur, en vous faisant un esprit de sagesse? Il but un verre de bière et ne s'aperçut pas du singulier regard que Wilfrid jeta sur Mina. Plaisanterie à part, reprit le ministre. J'ai été fort surpris d'apprendre qu'aujourd'hui, pour la première fois, ces deux folles seraient allées sur le sommet du Falberg. Mais n'est-ce pas une exagération de jeunes filles qui seront montées sur quelques collines? Il est impossible d'atteindre à la cime du Falberg. Mon père, dit Mina d'une voix émue, j'ai donc été sous le pouvoir du démon, car j'ai gravi le Falberg avec lui. Voilà qui devient sérieux, dit Monsieur Baker. Mina n'a jamais menti. Monsieur Baker, reprit Wilfrid, je vous affirme que Seraphita exerce sur moi des pouvoirs si extraordinaires que je ne sais aucune expression qui puisse en donner une idée. Elle m'a révélé des choses que moi seul je puis connaître. Somnambulisme, dit le vieillard. D'ailleurs, plusieurs effets de ce genre sont rapportés par Jean Vire, comme des phénomènes fort explicables et jadis observés en Égypte. Confiez-moi les œuvres théosophiques de Swedenborg, dit Wilfrid. Je veux me plonger dans ces gouffres de lumière. Vous m'en avez donné soif. Monsieur Baker tendit un volume à Wilfrid, qui se mit à lire aussitôt. Il était environ 9 heures du soir. La servante vint servir le souper. Mina fit le thé. Le repas fini, chacun d'eux resta silencieusement occupé. Le pasteur à lire le traité des incantations, Wilfrid à saisir l'esprit de Swedenborg, la jeune fille à coudre en s'abîmant dans ses souvenirs. Ce fut une veillée de Norvège, une soirée paisible, studieuse, pleine de pensées, des fleurs sous la neige. En dévorant les pages du prophète, Wilfrid n'existait plus que par ses sens intérieurs. Parfois, le pasteur le montrait d'un air moitié sérieux, moitié railleur à Mina qui souriait avec une sorte de tristesse. Pour Mina, la tête de Séraphitus lui souriait en planant sur le nuage de fumée qui les enveloppait tous trois. Minuit sonna. La porte extérieure fut violemment ouverte. Des pas pesants et précipités, les pas d'un vieillard effrayé, se firent entendre dans l'espèce d'antichambre étroite qui se trouvait entre les deux portes. Puis tout à coup, David se montra dans le parloir.
« Violence ! Violence ! » s'écria-t-il. « Venez, venez tous ! Les satans sont déchaînés, ils ont des mitres de feu, ce sont des Adonis, des Vertumes, des Sirènes. Ils le tentent comme Jésus fut tenté sur la montagne, venez les chasser !»
Reconnaissez-vous le langage de Swedenborg ? Le voilà pur, dit en riant le pasteur. Mais Wilfrid et Mina regardaient avec terreur le vieux David, qui, ses cheveux blancs épars, les yeux égarés, les jambes tremblantes et couvertes de neige, car il était venu sans patins, restait agité comme si quelque vent tumultueux le tourmentait. « Qu'est-il arrivé ? » lui dit Mina. « Eh bien, les satans espèrent et veulent le reconquérir. » Ces mots firent palpiter Wilfrid. Voici près de 5 heures qu'elle est debout, les yeux levés au ciel, les bras étendus. Elle souffre, elle crie à Dieu. Je ne puis franchir les limites. L'enfer a posé des vertumes en sentinelles. Ils ont élevé des murailles de fer entre elle et son vieux David. Si elle a besoin de moi, comment ferai-je? Secourez-moi, venez prier. » Le désespoir de ce pauvre vieillard était effrayant à voir. La clarté de Dieu la défend. Mais si elle allait céder à la violence, reprit-il avec une bonne foi séductrice. Silence, David, n'extravaguez pas. Ceci est un fait à vérifier. Nous allons vous accompagner, dit le pasteur, et vous verrez qu'il ne se trouve chez vous ni Vertume, ni Satan, ni Sirène. Votre père est aveugle, dit tout bas David à Mina. Wilfrid, sur qui la lecture d'un premier traité de Swedenborg, qu'il avait rapidement parcouru, venait de produire un effet violent, était déjà dans le corridor, occupé à mettre ses patins. Mina fut prête aussitôt. Tous deux laissèrent en arrière les deux vieillards, et s'élancèrent vers le château suédois. « Entendez-vous ce craquement ? » dit Wilfrid. « La glace du fjord remue, » répondit Mina. « Mais voici bientôt le printemps. » Wilfrid garda le silence. Quand tous deux furent dans la cour, ils ne se sentirent ni la faculté ni la force d'entrer dans la maison. « Que pensez-vous d'elle ? » dit Wilfrid. « Quelle clarté ! » s'écria Mina, qui se plaça devant la fenêtre du salon.
« Le voilà. Mon Dieu, qu'il est beau. Oh, mon Séraphitus, prends-moi. » L'exclamation de la jeune fille fut tout intérieure. Elle voyait Séraphitus debout, légèrement enveloppé d'un brouillard couleur d'opale qui s'échappait à une faible distance de ce corps presque phosphorique. « Comme elle est belle !» s'écria mentalement aussi Wilfrid. En ce moment, M. Becker arriva, suivi de David. Il vit sa fille et l'étranger devant la fenêtre, vint près d'eux, regarda dans le salon et dit « Eh bien, David, elle fait ses prières. » « Mais, monsieur, essayez d'entrer. Pourquoi troubler ceux qui prient ?» répondit le pasteur. En ce moment, un rayon de la lune qui se levait sur le Falberg jaillit sur la fenêtre. Tous se retournèrent, émus par cet effet naturel qui les fit tressaillir. Et quand ils revinrent pour voir Séraphita, elle avait disparu. « Voilà qui est étrange !» dit Wilfrid surpris. « Mais j'entends des sons délicieux !» dit Mina.
« Eh bien quoi ? » dit le pasteur. « Elle va sans doute se coucher. »
David était rentré. Ils revinrent en silence. Aucun d'eux ne comprenait les effets de cette vision de la même manière. Monsieur Becker doutait
Mina adorait. Wilfrid désirait.
Wilfrid était un homme de 36 ans. Quoique largement développé, ses proportions ne manquaient pas d'harmonie. Sa taille était médiocre, comme celle de presque tous les hommes qui sont élevés au-dessus des autres. Sa poitrine et ses épaules étaient larges, et son col était court, comme celui des hommes dont le cœur doit être rapproché de la tête. Ses cheveux étaient noirs, épais et fins. Ses yeux, d'un jaune brun, possédaient un éclat solaire qui annonçait avec quelle avidité sa nature aspirait la lumière. Si ses traits mâles et bouleversés péchaient par l'absence du calme intérieur que communique une vie sans orage, ils annonçaient les ressources inépuisables de sens fougueux et les appétits de l'instinct. De même que ses mouvements indiquaient la perfection de l'appareil physique, la flexibilité des sens et la fidélité de leur jeu. Cet homme pouvait lutter avec le sauvage, entendre comme lui le pas des ennemis dans le lointain des forêts, en flairer la senteur dans les airs et voir à l'horizon le signal d'un ami. Son sommeil était léger comme celui de toutes les créatures qui ne veulent se laisser surprendre. Son corps se mettait promptement en harmonie avec le climat des pays où le conduisait sa vie à tempête. L'art et la science eussent admiré dans cette organisation une sorte de modèle humain. En lui tout s'équilibrait, l'action et le cœur, l'intelligence et la volonté. Au premier abord, il semblait devoir être classé parmi les êtres purement instinctifs qui se livrent aveuglément aux besoins matériels. Mais dès le matin de la vie, il s'était élancé dans le monde social avec lequel ses sentiments l'avaient commis. L'étude avait agrandi son intelligence, la méditation avait aiguisé sa pensée, les sciences avaient élargi son entendement. Il avait étudié les lois humaines, le jeu des intérêts, mis en présence par les passions, et paraissait s'être familiarisé de bonne heure avec les abstractions sur lesquelles reposent les sociétés. Il avait pâli sur les livres qui sont les actions humaines mortes, puis il avait veillé dans les capitales européennes au milieu des fêtes. Il s'était éveillé dans plus d'un lit, il avait dormi peut-être sur le champ de bataille pendant la nuit qui précède le combat et pendant celle qui suit la victoire. Peut-être sa jeunesse orageuse l'avait-elle jeté sur le tillac d'un corsaire à travers les pays les plus contrastants du globe. Il connaissait ainsi les actions humaines vivantes. Il savait donc le présent et le passé. L'histoire double, celle d'autrefois, celle d'aujourd'hui. Beaucoup d'hommes ont été, comme Wilfrid, également puissants par la main, par le cœur et par la tête. Comme lui, la plupart ont abusé de leur triple pouvoir. Mais si cet homme tenait encore par son enveloppe à la partie limoneuse de l'humanité, certes il appartenait également à la sphère où la force est intelligente. Malgré les voiles dans lesquels s'enveloppait son âme, il se rencontrait en lui ces indicibles symptômes visibles à l'œil des êtres purs, à celui des enfants dont l'innocence n'a reçu le souffle d'aucune passion mauvaise, à celui du vieillard qui a reconquis la sienne. Ces marques dénonçaient un Caïn, auquel il restait une espérance, et qui semblait chercher quelque absolution au bout de la terre. Mina soupçonnait le forçat de la gloire en cet homme, et Séraphita le connaissait. Toutes deux l'admiraient et le plaignaient. D'où leur venait cette prescience. Rien à la fois de plus simple et de plus extraordinaire. Dès que l'homme veut pénétrer dans les secrets de la nature, où rien n'est secret, où il s'agit seulement de voir, il s'aperçoit que le simple y produit le merveilleux. Séraphitus, dit un soir Mina, quelques jours après l'arrivée de Wilfrid à Jarvis, vous lisez dans l'âme de cet étranger, tandis que je n'en reçois que de vagues impressions. Il me glace ou m'échauffe, mais vous paraissez savoir la cause de ce froid ou de cette chaleur. Vous pouvez me le dire, car vous savez tout de lui. Oui, j'ai vu les causes, dit Séraphitus en abaissant sur ses yeux ses larges paupières. Par quel pouvoir? Dit la curieuse Mina. J'ai le don de spécialité, lui répondit-il. La spécialité constitue une espèce de vue intérieure qui pénètre tout, et tu n'en comprendras la portée que par une comparaison.
dans les grandes villes de l'Europe, d'où sortent des œuvres où la main humaine cherche à représenter les effets de la nature morale aussi bien que ceux de la nature physique, il y a des hommes sublimes qui expriment des idées avec du marbre. Le statuaire agit sur le marbre, il le façonne, il y met un monde de pensées. Il existe des marbres que la main de l'homme a doués de la faculté de représenter tout un côté sublime ou tout un côté mauvais de l'humanité. La plupart des hommes y voient une figure humaine et rien de plus. Quelques autres, un peu plus haut, placés sur l'échelle des êtres, y aperçoivent une partie des pensées traduites par le sculpteur. Ils y admirent la forme. Mais les initiés au secret de l'art sont tous d'intelligence avec le statuaire. En voyant son marbre, ils y reconnaissent le monde entier de ses pensées. Ceux-là sont les princes de l'art. Ils portent en eux-mêmes un miroir où vient se réfléchir la nature avec ses plus légers accidents. Eh bien, il est en moi comme un miroir, où vient se réfléchir la nature morale avec ses causes et ses effets. Je devine l'avenir et le passé en pénétrant ainsi la conscience. Comment, me diras-tu toujours? Fais que le marbre soit le corps d'un homme, fais que le statuaire soit le sentiment, la passion, le vice ou le crime, la vertu, la faute ou le repentir, tu comprendras comment j'ai lu dans l'âme de l'étranger, sans néanmoins t'expliquer la spécialité. Car pour concevoir ce don, il faut le posséder. Si Wilfrid tenait aux deux premières portions de l'humanité si distinctes, aux hommes de force et aux hommes de pensée, ses excès, sa vie tourmentée et ses fautes l'avaient souvent conduit vers la foi, car le doute a deux côtés. Le côté de la lumière et le côté des ténèbres. Wilfrid avait trop bien pressé le monde dans ses deux formes, la matière et l'esprit, pour ne pas être atteint de la soif de l'inconnu, du désir d'aller au-delà, dont sont presque tous saisis les hommes qui savent, peuvent et veulent. Mais ni sa science, ni ses actions, ni son vouloir n'avaient de direction. Il avait fui la vie sociale par nécessité, comme le grand coupable cherche le cloître. Le remords, cette vertu des faibles, ne l'atteignait pas. Le remords est une impuissance, il recommencera sa faute. Le repentir seul est une force. Il termine tout. Mais en parcourant le monde dont il s'était fait un cloître, Wilfrid n'avait trouvé nulle part de baume pour ses blessures, il n'avait vu nulle part de nature à laquelle il se pût s'attacher. En lui, le désespoir avait desséché les sources du désir. Il était de ces esprits qui, s'étant pris avec les passions, s'étant trouvés plus forts qu'elles, n'ont plus rien à presser dans leur serre, qui, l'occasion leur manquant de se mettre à la tête de quelques-uns de leurs égaux pour fouler sous le sabot de leur monture des populations entières, achèteraient au prix d'un horrible martyre la faculté de se ruiner dans une croyance. Espèce de rocher sublime qui attendent un coup de baguette qui ne vient pas et qui pourrait en faire jaillir les sources lointaines. Jeté par un dessein de sa vie inquiète et chercheuse dans les chemins de la Norvège, l'hiver y avait surpris à Jarvis. Le jour où pour la première fois il vit Séraphita, cette rencontre lui fit oublier le passé de sa vie. La jeune fille lui causa ces sensations extrêmes qu'il ne croyait plus ranimables. Les cendres laissèrent échapper une dernière flamme et se dissipèrent au premier souffle de cette voix, qui jamais s'est sentie redevenir jeune et pure après avoir froidi dans la vieillesse et s'être salie dans l'impureté. Tout à coup, Wilfrid aima comme il n'avait jamais aimé. Il aima secrètement, avec foi, avec terreur, avec d'intimes folies. Sa vie était agitée dans la source même de la vie, à la seule idée de voir Séraphita. En l'entendant, il allait en des mondes inconnus, il était muet devant elle, elle le fascinait. Là, sous les neiges, parmi les glaces, avait grandi sur sa tige cette fleur céleste, à laquelle aspiraient ses vœux jusque-là trompés, et dont la vue réveillait les idées fraîches, les espérances, les sentiments qui se groupent autour de nous, pour nous enlever en des régions supérieures, comme les anges enlèvent aux cieux les élus dans les tableaux symboliques dictés aux peintres par quelque génie familier. Un céleste parfum amollissait le granit de ce rocher. Une lumière douée de paroles lui versait les divines mélodies qui accompagnent dans sa route le voyageur pour le ciel. Après avoir épuisé la coupe de l'amour terrestre que ses dents avaient broyée, il apercevait le vase d'élection où brillaient les ondes limpides et qui donnent soif des délices immarcessibles à qui peut y approcher des lèvres assez ardentes de foi pour n'en point faire éclater le cristal. Il avait rencontré ce mur d'airain à franchir qu'il cherchait sur la terre. Il allait impétueusement chez Séraphita, dans le dessein de lui exprimer la portée d'une passion sous laquelle il bondissait comme le cheval de la fable sous ce cavalier de bronze que rien n'émeut, qui reste droit et que les efforts de l'animal fougueux rendent toujours plus pesant et plus pressant. Il arrivait pour dire sa vie, pour peindre la grandeur de son âme par la grandeur de ses fautes, pour montrer les ruines de ses déserts. Mais quand il avait franchi l'enceinte et qu'il se trouvait dans la zone immense, embrassée par ses yeux, dont le scintillant azur ne rencontrait point de bornes en avant et n'en offrait aucune en arrière, il devenait calme et soumis comme le lion qui, lancé sur sa proie dans une plaine d'Afrique, reçoit sur l'aile des vents un message d'amour et s'arrête. Il s'ouvrait un abîme où tombaient les paroles de son délire et d'où s'élevait une voix qui le changeait. Il était enfant, enfant de 16 ans, timide et craintif devant la jeune fille au front serein, devant cette blanche forme dont le calme inaltérable ressemblait à la cruelle impassibilité de la justice humaine. Et le combat n'avait jamais cessé que pendant cette soirée où, d'un regard, elle l'avait enfin abattu, comme un Milan qui, après avoir décrit ses étourdissantes spirales autour de sa proie, l'a fait tomber stupéfiée avant de l'emporter dans son air. Il est en nous-mêmes de longues luttes, dont le terme se trouve être une de nos actions, et qui font comme un envers à l'humanité. Cet envers est à Dieu, l'endroit est aux hommes. Plus d'une fois, Séraphita s'était plu à prouver à Wilfrid qu'elle connaissait cet envers, si varié, qui compose une seconde vie à la plupart des hommes. Souvent, elle lui avait dit de sa voix de tourterelle, « Pourquoi toute cette colère ?» Quand Wilfrid se promettait en chemin de l'enlever afin d'en faire une chose à lui. Wilfrid seul était assez fort pour jeter le cri de révolte qu'il venait de pousser chez M. Baker et que le récit du vieillard avait calmé. Cet homme si moqueur, si insulteur, voyait enfin poindre la clarté d'une croyance sidérale en sa nuit. Il se demandait si Séraphita n'était pas une exilée des sphères supérieures en route pour la patrie. Les déifications dont abusent les amants en tout pays, il n'en décernait pas les honneurs à ce lys de la Norvège, il y croyait. Pourquoi restait-elle au fond de ce fjord? Qui faisait-elle? Les interrogations sans réponse abondaient dans son esprit. Qu'arriverait-il entre eux surtout? Quel sort l'avait amené là? Pour lui, Séraphita était ce marbre immobile, mais léger comme une ombre, que Mina venait de voir se posant au bord du gouffre. Séraphita demeurait ainsi devant tous les gouffres sans que rien ne pût l'atteindre, sans que l'arc de ses sourcils fléchît, sans que la lumière de sa prunelle vacillât. C'était donc un amour sans espoir, mais non sans curiosité. Dès le moment où Wilfrid soupçonna la nature éthérée dans la magicienne qui lui avait dit le secret de sa vie en songe harmonieux, il voulut tenter de se la soumettre, de la garder, de la ravir au ciel, où peut-être elle était attendue. L'humanité, la terre, ressaisissant leur proie, il les représenterait. Son orgueil, seul sentiment par lequel l'homme puisse être exalté longtemps, le rendrait heureux de ce triomphe pendant le reste de sa vie. À cette idée, son sang bouillonna dans ses veines, son cœur se gonfla. S'il ne réussissait pas, il la briserait. Il est si naturel de détruire ce qu'on ne peut posséder, de nier ce qu'on ne comprend pas,
le lendemain,
d'insulter
Wilfrid,
ce qu'on envie.
Préoccupé par les idées que devait faire naître le spectacle extraordinaire dont il avait été le témoin la veille, voulut interroger David et vint le voir en prenant le prétexte de demander des nouvelles de Séraphita. Quoique M. Baker crût le pauvre homme tombé en enfance, l'étranger se fia sur sa perspicacité pour découvrir les parcelles de vérité que roulerait le serviteur dans le torrent de ses divagations. David avait l'immobile et indécise physionomie de l'octogénaire. Sous ses cheveux blancs se voyait un front où les rides formaient des assises ruinées. Son visage était creusé, comme le lit d'un torrent à sec. Sa vie semblait s'être entièrement réfugiée dans les yeux où brillait un rayon, mais cette lueur était comme couverte de nuages et comportait l'égarement actif, aussi bien que la stupide fixité de l'ivresse. Ses mouvements lourds et lents annonçaient les glaces de l'âge et les communiquaient à qui s'abandonnait à le regarder longtemps, car il possédait la force de la torpeur. Son intelligence bornée ne se réveillait qu'au son de la voix, à la vue, au souvenir de sa maîtresse. Elle était l'âme de ce fragment tout matériel. En voyant David seul, vous eussiez dit un cadavre. Séraphita se montrait-elle, parlait-elle, était-il question d'elle? Le mort sortait de sa tombe. Il retrouvait le mouvement et la parole. Jamais les eaux desséchées que le souffle divin doit ranimer dans la vallée de Josaphat, jamais cette image apocalyptique ne fut mieux réalisée que par ce Lazare, sans cesse rappelé du sépulcre à la vie par la voix de la jeune fille. Son langage, constamment figuré, souvent incompréhensible, empêchait les habitants de lui parler, mais il respectait en lui cet esprit profondément dévié de la route vulgaire que le peuple admire instinctivement. Wilfrid le trouva dans la première salle, en apparence endormi près du poêle. Comme le chien qui reconnaît les amis de la maison, le vieillard leva les yeux, aperçut l'étranger et ne bougea pas. « Eh bien, où est-elle ? » demanda Wilfrid au vieillard en s'asseyant près de lui. David agita ses doigts en l'air comme pour peindre le vol d'un oiseau. « Elle ne souffre plus ? » demanda Wilfrid. « Les créatures promises au ciel savent seules souffrir sans que la souffrance diminue leur amour. Ceci est la marque de la vraie foi. » répondit gravement le vieillard, comme un instrument essayé donne une note au hasard. « Qui vous a dit ces paroles ?»« L'esprit. » « Que lui est-il donc arrivé hier au soir ? Avez-vous enfin forcé les vertumes dans Sentinelle ? Vous êtes-vous glissé à travers les mamons ?»« Oui, » répondit David en se réveillant comme d'un songe. La vapeur confuse de son œil se fondit sous une lueur venue de l'âme et qui le rendit par degrés brillant comme celui d'un aigle, intelligent comme celui d'un poète. « Qu'avez-vous vu ?» lui demanda Wilfrid, étonné de ce changement subit. « J'ai vu les espèces et les formes. J'ai entendu l'esprit des choses. J'ai vu la révolte des mauvais. J'ai écouté la parole des bons. Ils sont venus sept démons, il est descendu sept archanges. » Les archanges étaient loin, ils contemplaient, voilés, les démons étaient prêts, ils brillaient et agissaient. Mammon est venu sur sa conque nacrée, et sous la forme d'une belle femme nue, la neige de son corps éblouissait. Jamais les formes humaines ne seront si parfaites, et il disait « Je suis le plaisir, et tu me posséderas. » Lucifer, le prince des serpents, est venu dans son appareil de souverain. L'homme était en lui beau comme un ange, et il a dit « L'humanité te servira. » La reine des avares, celle qui ne rend rien de ce qu'elle a reçu, la mère est venue enveloppée de sa mante verte. Elle s'est ouvert le sein, elle a montré son écrin de pierreries, elle a vomi ses trésors et les a offerts. Elle a fait arriver des vagues de saphir et d'émeraude. Ses productions se sont émues, elles ont surgi de leur retraite, elles ont parlé. La plus belle d'entre les perles a déployé ses ailes de papillon, elle a rayonné, elle a fait entendre ses musiques marines, elle a dit « Toutes deux filles de la souffrance, nous sommes sœurs. Attends-moi, nous partirons ensemble. Je n'ai plus qu'à devenir femme. » L'oiseau qui a les ailes de l'aigle et les pattes du lion, une tête de femme et la croupe du cheval, l'animal s'est abattu, lui a léché les pieds, promettant 700 années d'abondance à sa fille bien-aimée. Le plus redoutable, l'enfant, est arrivé jusqu'à ses genoux en pleurant et lui disant « Me quitteras-tu ? Moi, faible et souffrant, reste ma mère !»
il jouait avec les autres, il répandait la paresse dans l'air, et le ciel se serait laissé aller à sa plainte. La Vierge, au chant pur, a fait entendre ces concerts qui détendent l'âme. Les rois de l'Orient sont venus, avec leurs esclaves, leurs armées et leurs femmes. Les blessés ont demandé son secours, les malheureux ont tendu la main. « Ne nous quittez pas, ne nous quittez pas !» Moi-même, j'ai crié, « Ne nous quittez pas, nous vous adorerons, restez !» Les fleurs sont sorties de leurs graines en l'entourant de leurs parfums qui disaient « Restez !» Le géant Ennakim est sorti de Jupiter, amenant l'or et ses amis, amenant les esprits des terres astrales qui s'étaient joints à lui. Tous ont dit « Nous serons à toi pour 700 années. » Enfin, la mort est descendue de son cheval pâle et a dit « Je t'obéirai. » Tous se sont prosternés à ses pieds, et si vous les aviez vus, ils remplissaient la grande plaine, et tous lui criaient « Nous t'avons nourri, tu es notre enfant, ne nous abandonne pas. » La vie est sortie de ses eaux rouges et a dit « Je ne te quitterai pas. » Puis trouvant Séraphita silencieuse, elle a reluit comme le soleil en s'écriant « Je suis la lumière. La lumière est là. » s'est écriée Séraphita en montrant les nuages où s'agitaient les archanges, mais elle était fatiguée. Le désir lui avait brisé les nerfs. Elle ne pouvait que crier « Oh mon Dieu !» Combien d'esprits angéliques, en gravissant la montagne et prêts d'atteindre au sommet, ont rencontré sous leurs pieds un gravier qui les a fait rouler et les a replongés dans l'abîme. Tous ces esprits déchus admiraient sa constance. Ils étaient là, formant un cœur immobile, et tous lui disaient en pleurant « Courage !» Enfin, elle a vaincu le désir déchaîné sur elle sous toutes les formes et dans toutes les espèces. Elle est restée en prière, et quand elle a levé les yeux, elle a vu le pied des anges, revolant aux cieux. « Elle a vu le pied des anges ?» répéta Wilfrid. « Oui, dit le vieillard. « C'était un rêve qu'elle vous a raconté ?» demanda Wilfrid. « Un rêve aussi sérieux que celui de votre vie ?» répondit David. « J'y étais. » Le calme du vieux serviteur frappa Wilfrid, qui s'en alla se demanda si ses visions étaient moins extraordinaires que celles dont les relations se trouvent dans Swedenborg et qu'il avait lues la veille. Si les esprits existent, ils doivent agir, se disait-il en entrant au presbytère où il trouva M. Baker seul. « Cher pasteur, dit Wilfrid, Séraphita ne tient à nous que par la forme, et sa forme est impénétrable. Ne me traitez ni de fou ni d'amoureux, une conviction ne se discute point. Convertissez ma croyance en supposition scientifique et cherchons à nous éclairer. Demain, nous irons tous deux chez elle.
« Eh bien, dit M. Baker.
Si son œil ignore l'espace, reprit Wilfrid, si sa pensée est une vue intelligente qui lui permet d'embrasser les choses dans leur essence et de les relier à l'évolution générale des mondes, si, en un mot, elle sait et voit tout. Asseyons la pythonisse sur son trépied, forçons cet aigle implacable à déployer ses ailes en le menaçant. Aidez-moi. Je respire un feu qui me dévore. Je veux l'éteindre ou me laisser consumer. Enfin, j'ai découvert une proie. Je la veux. Ce serait, dit le ministre, une conquête assez difficile à faire, car cette pauvre fille est...
Est ? Reprit Wilfrid.
Folle,
dit le ministre.
Je ne vous conteste pas sa folie. Ne me contestez pas sa supériorité, cher monsieur Baker. Elle m'a souvent confondu par son érudition. A-t-elle voyagé? De sa maison au fjord. Elle n'est pas sortie d'ici, s'écria Wilfrid. Elle a donc beaucoup lu? Pas un feuillet, pas un iota. Moi seul ai des livres dans Jarvis. Les œuvres de Swedenborg, les seuls ouvrages qui fussent au château, les voici. Jamais elle n'en a pris un seul. Avez-vous jamais essayé de causer avec elle? À quoi bon? Personne n'a vécu sous son toit. Elle n'a pas eu d'autres amis que vous et Mina, ni d'autres serviteurs que David. Elle n'a jamais entendu parler de science ni d'art. Par qui? Dit le pasteur. Si elle disserte pertinemment de ces choses, comme elle en a souvent causé avec moi. Que croiriez-vous? Que cette fille a conquis, peut-être, pendant quelques années de silence, les facultés dont jouissaient Apollonius de Tyane et beaucoup de prétendus sorciers que l'Inquisition a brûlés, ne voulant pas admettre la seconde vue. Si elle parle arabe, que penseriez-vous? L'histoire des sciences médicales consacre plusieurs exemples de filles qui ont parlé des langues à elles inconnues. Que faire? Dit Wilfrid. Elle connaît dans le passé de ma vie des choses dont le secret n'était qu'à moi. Nous verrons si elle me dit les pensées que je n'ai confiées à personne, dit Monsieur Becker. Mina rentra. Eh bien, ma fille, que devient ton démon? Il souffre, mon père, répondit-elle en saluant Wilfrid. Les passions humaines, revêtues de leur fausse richesse, l'ont entourée pendant la nuit et lui ont déroulé des pompes inouïes. Mais vous traitez ces choses de contes. Des contes aussi beaux pour qui les lit dans son cerveau que le sont pour le vulgaire ceux des mille et une nuits, dit le pasteur en souriant. Satan, reprit-elle, n'a-t-il donc pas transporté le Sauveur sur le haut du temple en lui montrant les nations à ses pieds? Les évangélistes, répondit le pasteur, n'ont pas si bien corrigé les copies qu'il n'en existe plusieurs versions. Vous croyez à la réalité de ces visions, dit Wilfrid à Mina. Qui peut en douter quand il les raconte? Il? Demanda Wilfrid. Qui? Celui qui est là? Répondit Mina en montrant le château. Vous parlez de Séraphita? Dit l'étranger surpris. La jeune fille baissa la tête en lui jetant un regard plein de douce malice. Et vous aussi, reprit Wilfrid, vous vous plaisez à confondre mes idées? Qui est-ce? Que pensez-vous d'elle? Ce que je sens est inexplicable, reprit Mina en rougissant. Vous êtes fou, s'écria le pasteur. À demain, dit Wilfrid.